Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Et nous allons ouvrir une page de l'Évangile. C'est un texte que vous connaissez, peut-être pendant toutes ces années où j'ai partagé, en effet, la vie de l'église de Redon. Vous l'avez peut-être déjà entendu de ma bouche. Mais c'est un message qui va présenter d'autres aspects. Parce que c'est quand même intéressant de puiser dans la parole de Dieu. Elle est inépuisable. Il faut le dire, avec des variations, des variétés, toutes sortes de choses. Alors ne soyez pas choqués du sujet. Nous allons le découvrir ensemble à travers tout simplement l'évangile de Jean au chapitre 8. Chapitre 8 et le verset premier, verset 3 plutôt. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entend dire cela, accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, nous allons en effet développer cette pensée, parce que je pense qu'elle est fort intéressante. Et j'ai titré tout simplement notre propos ce matin, « Les pierres meurtrières ». Vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses avec les pierres, on construit des maisons, des châteaux, on édifie des empires, on peut le dire. Et puis, on s'en sert aussi pour faire du mal, faire du mal. Alors nous avons naturellement ce propos dans la Bible, dans notre vieille Bible. Mais on sait qu'il y a aussi aujourd'hui dans certains pays la pratique de ce que l'on appelle la lapidation. Encore aujourd'hui, après des siècles et des siècles, et les gens encore ramassent des pierres pour tuer les autres. Nous on a la guillotine. En France, on a toutes sortes de moyens, malheureusement nous le constatons, à travers les événements d'aujourd'hui au Moyen-Orient, mais il n'y a pas que ça. Dans d'autres pays, sous d'autres latitudes, on tue encore des hommes et des femmes, souvent, il faut le dire, innocents. Innocents. Il n'y a pas d'innocents sur la terre. Il n'y en a qu'un innocent, c'est Jésus. Mais il est venu, justement, ouvrir des portes mystérieuses, étonnantes, à tous ceux qui sont innocents et qui sont condamnés par leurs semblables. Alors, les pierres meurtrières. Vous avez remarqué ce texte, et nous nous penchons sur ce versets, il est dit ceci : celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelle parole ! Quelle profondeur de connaissance de la vie de cette femme, de la vie des hommes, Jésus ! Quelle parole de connaissance et de sagesse ! Je relis : celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Permettez-moi de prendre un petit instant pour vous raconter l'histoire des pierres. Oui, parce que bon, il faut le mettre dans le contexte. Faut le mettre dans le contexte, tout simplement. On va commencer par les temps préhistoriques. Alors, vous n'êtes pas rentré chez vous ce midi. J'espère que vous amenez un sandwich. Je n'avais pas prévu, hein, une gaffe fraternelle. Mais enfin, bon... vous ne mangez pas, mais vous pensez que vous mangez. La parole de Dieu. Voilà, c'est ce que je vous ai servi comme repas. Donc, histoire de pierre au temps préhistorique. Ça commençait, parce qu'on en a naturellement tellement de preuves. Et bien là, tout simplement, la période du silex travaillé. Et ça coupait, hein. Même les messieurs pouvaient se raser. C'était pas Gillette et puis, vous savez, toutes les marques de rasoir. Mais ça coupait bien, voilà. Hein. Bien qu'à cette époque, je pense qu'ils avaient quand même la barbe longue. Hein. Quoi qu'il en soit. Alors, le couteau, silex. Les outils tranchants, on a appelé ça l'âge de la pierre, l'âge de pierre. Alors, on est dans des régions, là, avec... tous ces monuments mégalithiques et tout ce qui est, dans, même en Bretagne, hein, ça c'est sûr, hein, on nous en parle. On ne sait pas avec quel instrument Caïn a tué son frère. Mais je pense qu'il devait y avoir, il nous est dit que le texte nous dit qu'il s'est vautré sur lui, et puis il l'a tué, étranglé, je ne sais pas. Est-ce que véritablement, eh bien, cet assassinat a été fait avec un instrument, une pierre ? Est-ce que c'était ça ? En effet, eh bien, qu'on peut penser... Parce que Caïn avait quelque chose au fond de son cœur, c'était la sauvagerie. Ouais, sauvagerie. Deux frères, un qui s'appelle Abel, le deuxième qui s'appelle Caïn, et nous voyons que Dieu est en train de mettre le caractère intérieur, la vie intérieure, l'âme de l'un et de l'autre, en concurrence, nous pourrions dire. Et le deuxième, Caïn, eh bien, va faire la preuve dans la première famille. Eh bien que on peut tuer un homme, oui, on peut le tuer, premier. Alors après, il y a eu des imitations, hein, jusqu'à notre siècle, jusqu'à notre temps, où là, eh bien, c'est plus des pierres, mais on est complètement dépassé par les inventions, eh bien, de capacités militaires. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être devant un peloton d'exécution avec des fusils en face de vous. Non, non, c'est autre chose, hein. Sans vous y attendre, ça vient de je ne sais combien de kilomètres, et de dizaines et de centaines de kilomètres, avec tout ce qu'on appelle missiles, oui, et drones, et toutes sortes de choses. Bon, alors, nous voyons qu'il y a l'histoire de Caïn, il y a plus tard la circoncision, qui va marquer le peuple d'Israël d'une manière tout à fait particulière. Passez-moi l'expression, mais... cette circoncision était pour rentrer dans le peuple, pour faire partie du peuple, finalement, de Dieu. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans l'Église chrétienne et particulièrement évangélique, eh bien le baptême. Ouais, une marque, quelque chose, c'est un engagement. Aujourd'hui, nous ne baptisons pas les enfants, hein, mais nous baptisons les adultes, et il n'y a pas de marque. Mais c'est l'engagement volontaire, finalement, de suivre Jésus. Une forme de circoncision. Alors, on ne va pas s'arrêter trop là-dessus. Alors, mais la circoncision a été mise en place par Moïse pour identifier, eh bien, cette appartenance. Et Moïse va être appelé par sa femme, époux de sang, avec une pierre. Il va prendre une pierre et il va prendre son fils et il va le circoncire. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui en Israël, parmi le peuple juif. Et c'est un acte religieux, voilà. Alors que le baptême dans l'Église évangélique, c'est pas un acte religieux, c'est une obéissance spirituelle aux injonctions du Saint-Esprit pour nous mettre à part. Nous sommes sanctifiés. Alors on va passer au Moyen-Âge. Ça va, vous avez... Hein, ça va vite quand même. Ça va vite. Le Moyen-Âge, c'est l'utilisation, parce que ça va finalement être décrit dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, la découverte de l'industrie du fer. Pierre, fer, et puis toutes sortes de matériaux, l'airain, toutes sortes de choses. Alors là, c'est dur aussi, hein, quelque chose. Alors le Moyen-Âge, c'est l'utilisation des boulets propulsés. Et ils ont modifié les châteaux forts. Avant, c'était vraiment rectiligne, carré, etc. C'est pour ça qu'ils les ont fait avec des tours rondes et tout ça, pour que ça puisse... Parce qu'on a détruit quand même pas mal de châteaux et de villes, hein, comme ça. On a inventé la bombarde. Ça fait du bruit, hein. Pire que le 14 juillet. Voilà. Hein. L'arquebuse, la catapulte, les fusils à pierre encore. Hein. Jusque dans le Moyen-Âge, c'était des fusils à pierre. Hein. Hein. Et puis... on y mettait des pierres, des cailloux, toutes sortes de choses, parce qu'il y avait une loi qui n'aurait jamais dû exister dans l'Ancien Testament, oui, peut-être, parce que c'est Dieu qui l'a dit, mais dans les années, finalement, au XIVe siècle ou XVe siècle, c'était encore la loi œil pour œil et dent pour dent, hein, qui m'a fait ceci, moi je tire cela. Alors c'était quand même de la cruauté et de la sauvagerie, quoi qu'il en soit. Mais une chose que nous constatons, c'est qu'à travers tous les temps, l'homme qui véritablement, eh bien, est ce que nous connaissons encore aujourd'hui, le sang va couler dans l'océan des rivalités guerrières. Et en dehors, quand on entend les actualités aujourd'hui, où nous voyons qu'il ne faut pas attendre d'être majeur pour tuer, hein, quand vous voyez des enfants de 12 ans, 10 ans, etc., etc., qui se livrent à des cruautés terribles. Je rentre pas dans les détails parce que vous les connaissez aussi bien que moi, parce que vous prenez les informations naturellement. Alors les rivalités guerrières, parce qu'elles sont toujours d'actualité. Je vais aller un peu plus loin. Dans la Bible, il y a des hommes illustres qui étaient véritablement des hommes qui croyaient en Jésus-Christ, qui ont été les précurseurs finalement, eh bien, de l'Église primitive. Moi je pense par exemple à Étienne. Ah, le pauvre Étienne, il a fait l'expérience que on était sorti des rudiments de l'Ancien Testament où ça pouvait se... les temps anciens et toutes sortes de choses. Mais Étienne, c'est véritablement un des premiers dans une nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce. Tu ne tueras point naturellement, l'Ancien Testament nous le dit. Mais là, c'est véritablement la loi qui est remplacée par la grâce, par l'amour. On ne fait plus les choses. Parce que c'est un devoir, on fait les choses parce qu'on aime. Et ça peut nous retenir, hein, d'aimer. Hein. Oui. Alors, dans tout simplement Étienne, il nous est... Et je voudrais lire le texte, si vous avez un peu de temps. Mais vous êtes venu pour ça quand même, non, hein. Il est dit cette parole. Permettez-moi de lire ceci. Hein. Étienne, le premier martyr, en entendant ces paroles, parce qu'il leur avait... passer un petit peu toute l'histoire d'Israël avec toutes ces chaos, à travers finalement ces turbitudes de ce peuple qui refusait de croire en Dieu, qui refusait de suivre Dieu. Il nous a dit que les Juifs étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre Étienne, parce qu'il leur avait sorti finalement la vérité, que la vérité. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, il va parler à ce moment-là les dernières paroles d'Étienne. « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, c'est Jésus. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül, Paul. Vous vous rendez compte, qui va devenir le grand apôtre de l'Évangile, l'apôtre de l'amour, en quelque sorte, avec Jean, et puis il partagera avec d'autres, naturellement. Alors, ils le lapidèrent. Ils ont déposé aux pieds de Paul. Ils lapidèrent Étienne, qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas leur péché. » Et après la parole, Étienne n'est pas mort, il s'est endormi. Comprenez ce que ça veut dire. Un homme incrédule meurt, comme tous ses, finalement, ses ennemis, mais un croyant, les croyants qui croient en Jésus, qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui croient à sa résurrection et à son prochain retour, remplis du Saint-Esprit, s'endort.
Amen.
Il s'endort. Mes frères et sœurs, nous allons nous endormir dans la gloire de Dieu.
Amen.
Avec un autre corps, avec une personnalité purifiée, sanctifiée, et nous serons à la ressemblance de Jésus. Ça vous va comme programme? C'est rassurant, hein? J'en passerai un deuxième, mais je ne ferai pas trop de commentaires sur celui-ci. C'est tout simplement l'apôtre Paul dont nous venons parler à l'Istre. Il nous est dit qu'il a annoncé l'Évangile. Il a fait un miracle extraordinaire en faisant marcher un boiteux de naissance. Les gens pensaient que c'était Dieu qui était venu sur terre à travers la parole de Paul et à travers le miracle. Et à ce moment-là, à un moment donné, les choses ont tourné et ils ont voulu le lapider et ils l'ont laissé comme mort, mais il n'était pas mort. L'Istre, à l'Istre. Et puis, il y a naturellement, dans Corinthiens, qu'est-ce que nous dit Paul? Parce qu'il a eu une vie vraiment difficile. Hein. Alors lui, il nous dira à un moment donné, là, tout simplement, Paul nous dit, 40 coups moins un, le fouet, il l'a reçu. C'est pas mal, hein, 40 coups moins 1. Là, vous pouvez avoir des boutons sur le dos, hein, et puis des meurtrissures, toutes sortes de choses. Il parlera qu'il a été battu de verge, vous savez, comme Jésus d'ailleurs, hein, qu'il a été lapidé une fois, il parle de l'Istre à ce moment-là, hein, et que cette fois, il dira comme une répétition, comme une récitation, en péril dans, en péril à, en péril dans telle ou telle situation. Voilà l'homme. Et tout ça par la haine des hommes, la haine religieuse des hommes, parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas les Romains, etc., ils ont exécuté les choses comme on leur avait dit, mais c'est pour vous dire, hein, ça c'est Caïn qui tue, et bien là tout simplement Abel, et ça n'a jamais existé, et je crois que les choses les plus terribles, ce sont finalement les guerres de religion. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Entre les sunnites et les chiites, entre les protestants et les catholiques pendant 3 siècles pour nous, à travers toutes sortes de difficiles relations sur tous les terrains du monde, les orthodoxes, l'antisémitisme, toutes sortes de choses. Mais c'est l'histoire de notre monde et elle existe encore aujourd'hui. On se demande comment ça va finir. La pierre meurtrière. Lynchage, lapidation, cette cruauté avec des pierres qui tuent, qui laissent des coups, qui laissent des souvenirs traumatisants, des blessures qui invalident la vie dans le but de détruire celui qui nous chaîne. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis la vérité et la vie ». Et qu'est-ce qu'on en a fait? On lui a pas acheté les pierres. On l'a crucifié. La crucifixion de Jésus. Il a dit la vérité. Parce que j'ai dit la vérité, ils l'ont haï. Ils ont tué leur Messie. Ils ont tué celui qui avait été prévenu, annoncé par les prophètes pendant des siècles et des siècles. Et qu'est-ce que fait notre christianisme aujourd'hui dans tous ces états de révolte et de rébellion? On est en train de refaire exactement la même chose. En niant finalement, la divinité de Jésus, l'œuvre que Jésus a faite, sa résurrection, ses souffrances pour tous les hommes, parce qu'il nous est dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés, que nous sommes affranchis finalement de ce cœur mauvais que nous avons, qui n'est pas un cœur de chair, mais qui est un cœur de pierre. Alors on va aller un peu plus loin encore. Hein. Les pierres mortelles de nos jours. Ah oui, il faut en parler, parce qu'on en parle. Il n'y a que ça dans les informations. La première explication que nous pourrions donner, ce sont les pierres de l'image. Avec, finalement, des pierres, en taillant les pierres, on fait des images, hein, ça c'est sûr. Vous savez ce que disent les 10 commandements, de toute façon. Hein. Les pierres de l'image, mais l'image aujourd'hui, elle est tout à fait différente. Elle est à travers les moyens télévisuels. Elle est à travers les pads, elle est à travers les téléphones, elle est à travers toutes sortes de choses modifiées qui glissent vers l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre, hein. Mais attention, hein. Il n'y a pas de dessin sur la Terre. Hein. Des saints et ça, des gens qui sont saints. Hein. Il y a des gens qui sont pervers. Hein. Et on va se servir de ça, et les résultats, voilà, la pierre de l'image qui choque, qui traumatise la pensée des petits comme des grands, des sages comme des gens sans trop de connaissances, peu importe, qui endommage les consciences parce que ça ne reste pas au niveau des yeux. Ça va dans la conscience des hommes, ça va pour détruire, pour gâcher la conscience par imitation, parce qu'on veut être comme tout le monde, des moutons de Panurge, et corrompre les mœurs. Quand je vous cite qu'aujourd'hui, nous voyons des enfants criminels, que nous voyons des sadiques, quand nous voyons des hommes et des hommes qui, en effet, font des choses ignobles aux femmes, et toutes sortes de choses, et entre eux d'ailleurs, entre hommes, qui attisent le mal, qui incitent dans tous les aspects. Ça, c'est les pierres mortelles que l'on... Et on prend ça comme de la modernité, et on appelle ça finalement, et bien ce sont les voies du monde d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la parole humaine. Ah oui, et ça, faut en parler. Vous parliez à quel âge quand vous étiez... Vous en souvenez pas, hein? Mais je dis que la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous vous rendez compte? Un petit français va parler français, un petit russe va parler russe. Il n'a pas besoin d'avoir un bouquin hein, de français devant les yeux pour savoir comment ça va se passer. Il apprend avec papa et maman, il apprend avec ses frères et sœurs, etc. La parole humaine qui souille à travers le mensonge, à travers la vanité, à travers toutes sortes de choses qui souillent et entraînent à la haine et au crime. On en parle de trop aujourd'hui, vous savez, dans les médias. Moi, quelquefois, je me dis, mais on ne parle que des bandits, que des voleurs, que ceux qui font des coups inimaginables. Et on ne s'imaginerait pas qu'on peut faire encore ça. Les prisons sont pleines à craquer. Hein. Alors surtout, ne faites pas de bêtises, parce que vous n'allez pas toutes seules dans les prisons. Hein. Ils sont jusqu'à 8 ou 10 dans, enfermés parce qu'ils ont fait des méfaits, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Alors la parole humaine, elle souille, elle entraîne à la haine et au crime. C'est Jacques qui nous dit cette belle parole, que la parole des hommes, elle est comme un feu, elle est comme un incendie, elle est comme, finalement, eh bien, tout ce qu'il peut y avoir de destructeur sur la terre. Oui, vous lirez ça, Jacques, 3:5. Propos et langage qui incendient, qui enflamment la vie par le mensonge, par l'hypocrisie et la sainteté. Vous savez, vous avez entendu, parce que vous parlez tous anglais, naturellement, hein, les fake news et les deep news. Alors ça, il y a ça. Et quand on voit que ça touche même les présidents, les hommes les plus hauts de la Terre, qui dirigent le monde, et qui sont en train de dire oui et de dire non, moi je pense qu'ils sont tous normands. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'espère qu'il n'y a pas de normands, parce que je voudrais quand même pas me faire lapider. Ma femme m'attend quand même encore, hein, elle pense qu'elle va rentrer avec moi. C'est... Non, surtout, hein. Ayez pitié d'elle, pas de moi, mais d'elle. Il y a les pierres indigestes, vous savez, ouais, vous n'avez jamais mangé de cailloux, ça casse les dents. Mais comme c'est toujours un plaisir d'aller chez le dentiste, c'est vrai que c'est un bon moment. Hein. Alors mangez des cailloux et vous allez voir que vous allez être comme des lapins. Il n'y aura plus que deux dents devant, c'est tout. Les pierres indigestes qui rendent malades et confisquent la santé des hommes qui mangent ces pierres indigestes. Et qui en sont friands, hein. C'est comme une friandise. Hein. Et la liberté d'être. Vous savez, il y a quelque chose qui est important dans nos pays démocratiques, peut-être pas dans d'autres, mais dans notre pays, c'est la liberté. Liberté, pas de vivre, pas d'exister, mais la liberté d'être soi-même. Ouais, ça c'est quelque chose. Parce qu'il y a des substances enivrantes. Alors, substance, ça peut être de la poudre ou ça peut être du liquide, hein, peu importe. Hein. Oui, substance enivrante, je pense aux narcotiques. Ça n'a jamais été comme ça dans notre pays. Hein. Aujourd'hui, vous grattez un petit peu dans des colis, dans des valises ou autre part, et vous allez devenir finalement eh bien, un héros, parce que vous avez trouvé, là, je ne sais quel, combien de millions, finalement, de poudre, et ça se vend bien. pas de problème. Oui, ben ça, ce sont des, on peut dire, des pires indigestes qui détruisent, qui dénaturent l'humanité. Vous savez, un drogué profond, nous pouvons avoir de la peine pour ces gens-là. Ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés finalement, et bien là, dans une confiance auquel ils n'auraient jamais dû faire, parce qu'on leur a dit, voilà, vous allez avoir le bonheur. Vous savez, les bombes là, pour faire de la chantilly, mesdames, vous savez, hein, vous en prenez un peu, mais alors vous vous roulez par terre, et quand vous êtes triste, vous prenez ça, et vous allez rire pendant 5-10 minutes et tout ça. Mais attendez, hein, dans ma tête, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des restes, hein, et des beaux restes, mais des mauvais restes, en tous les cas. Oui, dénature l'humanité, et qui font, à travers ces substances, ces pierres que nous avons appelées tout simplement indigestes, qui réduisent les hommes à l'animalité, si vous voulez savoir. Allez voir sur le bord des trottoirs, allez voir les pauvres gens. Vous savez, dans nos églises, nous avons aussi un regard vers ceux qui sont comme ça, nos propres enfants quelquefois, hein, qui se droguent, qui ont été embarqués. Et dans de bonnes familles. Et là, aujourd'hui, vous ne les reconnaissez pas, vos enfants. Parce qu'ils deviennent fous. Que sera notre monde dans 20 ans ou 30 ans avec les jeunes que nous avons là aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a maintenant, et j'en arrive au texte, il y a les jugements arbitraires et les condamnations injustes. Ce qu'on appelle des iniquités. Ces pluies de pierres qui nous tombent, qui nous enchaînent et qui déclenchent des violences. Qui déclenche de la haine, le parti pris, la calomnie, la diffamation. Mes amis, je voudrais vous dire qu'il y a des jugements iniques, même dans nos églises, par des abus spirituels. Et aucune église n'échappe. Nous avons entendu parler de ce qui se passe, hein, dans certaines institutions religieuses. Mais quelquefois, ça peut venir même aussi chez nous. Faut avoir quand même, eh bien, l'honnêteté de regarder comme il faut. Et il y a des injustices entre nous. Oui. On met les gens dehors. On fait toutes sortes de choses parce qu'ils ne nous plaisent pas. Parce qu'on a un programme à développer. Parce qu'il y a ceci et cela à faire. Alors bon, si vous avez une bonne mine, mais avoir une bonne mine, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Les pharisiens avaient tous des hypocrites. Jésus leur dit au moins combien de fois, vous êtes une bande d'hypocrites. Ça leur faisait pas plaisir. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a, eh bien, des choses comme ça, dont il faut être conscient. Ce sont, nous pouvons dire, des jugements arbitraires, des pierres d'arbitraire, d'injustice. Parce que finalement, eh bien là, c'est pas l'esprit qui nous conduit. Hein. C'est pas la vérité. Excusez-moi. Mais ce sont des fantaisies d'égoïsme, de plans, de stratégies. Soyez perspicaces, mes frères et sœurs, on est dans ce monde-là. Ouais. Et n'allez pas idéaliser l'Église. Oui, parce qu'elle porte en elle des choses qui sont contraires aux enseignements que Jésus nous a donnés, de vérité, de probité. Et ça, c'est important de le dire. Pluie de pierre, parce que ça déchaîne des tristesses, ça déchaîne des découragements, de parti pris, des calomnies, la diffamation, je l'ai déjà dit. On va passer maintenant au retour à la femme adultère. On a résumé un petit peu en gros à travers l'histoire, mais la femme adultère. Voilà une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, exposée en spectacle devant tous. Et ce n'est pas Jésus qui va la chercher, ce sont les ennemis de Jésus qui vont l'amener à Jésus pour savoir ce qu'il pense. Alors moi je me suis toujours posé la question, où il est le coquin amant de cette femme? Oui. Où il est? Il a disparu. Le coquin. Oui, parce que ça peut sembler un petit peu infantile de dire coquin. Mais là, c'est vraiment de la coquinerie. Hein. Perverte. Et c'est la femme qui évidemment va prendre. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai bien fait de vous souhaiter une bonne fête des mères. Alors, on ne s'ennuie pas avec moi, hein. Non ? Ma femme, elle est très contente parce que je fais ça toute la journée. Et c'est vrai, je la vois, elle est pétanue. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça parce que, vous savez, tous les pasteurs, ils ont un style, hein. Ils ont un don. Ils ont quelque chose. Vous vous souvenez de Gilbert Rickenbach ?
Oh oui.
Aïe, aïe, aïe. Alors nous, on n'aurait pas dit un pasteur, hein. Mais pourtant, il disait des vérités, mais alors, à mettre les gens par terre, hein. Ça c'est sûr, hein. Il a fait comme Jésus, hein, de toute façon. Et chacun a son style. Il y en a d'autres, c'est plus dramatique. Hein, ce sont des gens qui pourraient faire du théâtre parce que ils ont une particularité. Mais vous savez, Jésus, il a choisi les uns les autres aussi en raison d'un don qu'il leur a donné pour que finalement l'évangile passe auprès des uns et auprès des autres. Ça passera peut-être pas pour tout le monde, mais ça passera. Moi, je dis que c'est formidable, hein, le Seigneur. Hein. Il sait faire les choses. Hein. Bon, voilà. Ben, j'arrête avec moi parce que bon, je vais en perdre la tête, moi, à un moment donné. En flagrant délit d'adultère. Donc, il cherchait. Il fouillait dans les maisons de Jérusalem parce que cette femme, elle était considérée comme une prostituée. Et est-ce qu'elle était vraiment prostituée? Parce qu'il faut quand même aussi mettre les choses en point. Peut-être que, enfant, dans sa propre famille, dans son entourage, avait-elle été violentée? Est-ce qu'elle avait été mise sur le trottoir? Est-ce que véritablement on n'avait pas profité d'elle? Et que quelque part, eh bien, n'ayant que le mépris de la population, eh bien que là, elle s'est retrouvée qu'il n'y avait qu'un seul métier pour elle. C'est faux peut-être. C'est peut-être vrai. Mais toujours est-il que les renifleurs, là, vous savez, ces gens religieux du temps de Jésus, sadducéens, pharisiens, parce qu'ils sont d'accord ensemble, hein, quand vous avez lu avec moi, hein, alors qu'ils sont toujours en train de se faire la guerre. Mais là, il y a une proie. Là, véritablement, ils vont passer à la curée. Vous savez ce que c'est que la curée, la chasse à cour, hein. Oui, oui. Ils ont quelque chose, mais c'est quelque chose, c'est pas la femme qui les intéresse. C'est de, finalement, de compromettre Jésus dans une erreur. Et dans un faux pas, tout simplement. Alors, elle est en spectacle devant tous. La question est celle-ci. La loi ordonne la mort par lapidation de telle femme. Moi, je pense à l'Afghanistan. Elles sont heureuses là-bas. Non, mais c'est pas possible. Même les filles sont interdites de scolarité. Elles sont, dès qu'elles arrivent à une certaine maturité de jeunes filles et tout ça, eh bien, on les empêche de travailler, d'aller à l'école, de ceci et cela. Aujourd'hui, même une femme afghane n'a pas le droit de regarder par la fenêtre, dans la rue. Je l'ai entendu dernièrement, hein. Vous, mesdames les Françaises. Ben, regardez-moi. Non, mais quand même. Quand même. Et on se plaint. Ben, tout n'est pas bien, tout n'est pas bon, tout n'est pas formidable, etc. Parce qu'il y a de la misère partout. Hein. Puis la misère, elle n'est pas seulement derrière, elle est à l'extérieur, elle est aussi dans nos propres cœurs. Ça, c'est sûr. Mais écoutez, la loi ordonne la mort par lapidation. Toi, ces détracteurs vont lui poser la question. Jésus, c'est bien clair, hein, qu'en penses-tu? On aimerait savoir, toi, eh bien, qui te dit loin de Dieu, le Messie d'Israël. On aimerait quand même savoir un petit peu ce que tu penses de ce genre de crise, de ce genre de cancer dans la société. Ah oui, cancer. Et il va dire que celui qui est sans péché, alors là, ça c'est véritablement un missile à plusieurs têtes nucléaires. Hein. Que celui qui est sans péché. Il y a une chose que je voudrais vous dire, vous avez de la chance ici. On n'a jamais ouvert un confessionnal avec un pasteur qui vous écoute raconter votre vie. Moi, j'y suis passé parce que je suis d'origine catholique. Quand j'étais petit, alors on avait un petit conciliabule. Je pouvais pas lui dire quand j'avais 8 ans, ben, j'ai tué quelqu'un, j'ai volé, j'ai ceci, cela. 8 ans, vous vous rendez compte? J'étais un petit ange. Oui. Et en plus, il me mettait une amende, parce que je devais rester pendant un quart d'heure sur une chaise pour faire mes actes de contrition. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? Ah oui, ben je vois que vous connaissez. Hein. D'accord. Oui, mais bon. Alors, que celui qui est sans péché de jeter la première pierre, parce que vous remarquez quelque chose, que dans les mots, jeter, est-ce que vous avez remarqué? Jeter est une image de violence. Une pierre, vous la prenez et vous faites le plus fort possible, hein, autant que vous avez de la force. Hein, vous la prenez et vous la mettez finalement sur la personne que vous voulez détruire. Hein. C'est l'agressivité, voire la précipitation pour atteindre une cible, une personne et en faire une proie. Et à un moment donné, ça fait son effet. Hein. Les gens meurent. Et je suppose, avant de mourir, ils souffrent, hein, parce que personne ne vient les penser, hein, ils ont des hémorragies, ils sont là à l'agonie, personne ne les regarde et les méprise. Ah oui, ils méritaient bien. Elles méritaient bien, finalement, et bien là, d'être traitées de cette manière. La Bible est un livre réaliste. Elle n'a pas peur de dire la vérité. Et elle dévoile les scélérates motivation en jouant avec la vérité et la justice. C'est ça, la perversité des choses. La parole de Dieu, la Bible de l'Ancien Testament, eh bien, c'est la vérité de Dieu qui parle aux hommes pour leur faire prendre conscience de leur perdition à cause de leur péché. Et nous voyons que ça a toujours été la même chose. Et aujourd'hui, dans les lois, moi, je ne veux pas critiquer, je ne suis pas ni magistrat, ni juge, rien du tout. Mais une chose qui est certaine, vous avez vu un peu les amalgames qu'il peut y avoir d'une manière ou d'une autre. Alors naturellement, il y a des avocats qui défendent, ça se comprend. Mais quelquefois, à première vue, on se dit, mais ce n'est pas défendable. Quand vous voyez le serial killer, un killer, et qui est en train de passer d'une femme à une autre, et des jeunes filles, et les étrangler, etc., etc., et on sent encore vouloir les défendre. Bon, moi, je ne me prononce pas par rapport à la peine de mort, mais quand même, il y a des choses où on joue avec la vérité et la justice, alors que les victimes, elles passent inaperçues. On n'en parle pas beaucoup, hein, des victimes. Pas beaucoup. Verdict de conscience, type d'accusation à deux tranchants. Les détracteurs se retirent un à un. La seule parole de Jésus, que celui qui est sans péché, voilà, il se retire. Ah, ce sont des courageux, hein. Ce sont des hommes, finalement, d'honneur. Alors, ils se retirent. Imaginons que si Jésus avait prononcé l'application stricte de la loi de Moïse, les accusateurs l'auraient désigné comme le Messie déchu, sans miséricorde. Regardez, il parle d'amour. Regardez comment il fait. Regardez comment il se comporte. Parce que ça l'arrange, etc. Oui, si Jésus... Finalement, ils auraient été contents, hein, les pharisiens, ça c'est sûr. Mais là, il met tout le monde sur le même plan, tout simplement. Impitoyable, donc sans miséricorde, que Jésus aurait été impitoyable, et lui faire perdre son crédit de sauveur. Il vient sauver les hommes, et lui-même, il fait des choses pareilles. Donc il est pécheur comme tout le monde. Donc c'est pas le Messie. C'est pas, finalement... Vous savez, derrière, il y a quelqu'un qui travaille, quelqu'un que on connaît tous de nom, qu'on ne voit jamais, mais qui fait un boulot de sape terrible. Vous savez de qui je parle? Satan, les démons, et toute cette démonologie qui suit derrière. Pourquoi les guerres? Pourquoi le mal? Pourquoi les meurtres? Pourquoi toutes ces choses qui défraient la chronique tous les jours, hein? Oui, pernicieuse manœuvre, manipulation, maître de manipulation, nous pourrions dire. Et il se sert des hommes, et il se sert surtout de la faiblesse des hommes par rapport au mal, par rapport au péché. On est souvent indulgent avec nous-mêmes, mais on est impitoyable avec les autres. Pas vrai? Oui, je vois que... Alors, attention à la nature des pierres meurtrières qui tuent, mes frères et sœurs. C'est pas pour ça qu'on est meilleur que les autres. C'est pas pour ça qu'on ne fait pas des bêtises, quelquefois. C'est pas pour ça que finalement nous sommes déjà des saints. Nous sommes sanctifiés, nous dit la Bible, mais la sainteté, ça sera pour de l'autre côté. Alors travaillez à avoir vraiment, eh bien, des auréoles le plus larges possible. Alors ça, c'est une invention humaine, des auréoles. Voilà. Jésus n'excuse pas la faute, vous remarquerez, la faute de la femme, mais il retourne le propos incriminé à la conscience de ceux qui accusent la femme en faute. Alors, en toute logique, il dira, et il l'écrira, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit, que celui qui croit être sans péché jette la première pierre. Oui, que le Seigneur nous fasse grâce. Et ça, c'est le cœur de Jésus, un cœur d'amour. Parce que je voudrais vous dire, avec les lois humaines, avec les lois d'Israël, par exemple, il n'y avait pas de pardon. Hein. Terminé. Ah oui, c'était quelque chose de terrible. Lisez l'Ancien Testament, le Pentateuque, par exemple, vous verrez un peu ce qui est dit. Mais en ce qui concerne l'Évangile, il y a toujours, après les fautes que l'on fait, moyen d'être pardonné par Dieu si on demande pardon, de se repentir, ça s'appelle la repentance. Et de vivre une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est merveilleux, les fautes. Vous avez fait des fautes, vous les regrettez aujourd'hui dans votre jeunesse et d'une manière ou d'une autre. Ben, venez devant le Seigneur. Dites-lui ce que vous avez à lui dire, ce qui vous pèse peut-être depuis tellement longtemps. Vous lui parlez de cela. Seigneur, je te demande de me pardonner parce que je te demande de me pardonner parce que je sais que tu as payé le prix de mon pardon, de ma justification. Ouais. Retenons une chose. Retenons que la grâce est au-dessus de la loi. Une loi en miséricorde et une loi de pardon. Ce n'est pas la loi de l'arbitraire et de l'absolu. Tu as fait ceci, tu mourras. Alors, il y a cette question, mais Jésus dira à ses détracteurs, à la détracteur de la femme ils veulent la tuer, où sont ceux qui... C'est pour ça que je vous ai dit le coquin, là. Où il est, lui, hein? Il est peut-être déjà au temple pour dire, eh ben, tu vois, j'ai fait du bon travail. Hein? Parce que finalement... Elle n'était pas forcément la seule responsable dans cette affaire. Plus personne à ce moment-là dans la scène qui vous est présentée ne dit mot. Et tout le monde détale. Moi j'aime bien le mot détaler. Ça c'est du courage. Ça ce sont des vaillants. Ce sont des soldats du front ça. Hein, qui vont jusqu'au bout. Hein. Ils détalent du lieu. Alors qui va porter l'escalade contre toi? Il n'y a plus personne. Dis donc, elle a eu de la chance hein, cette femme hein, aujourd'hui. Hein, parce que personne ne t'a-t-il condamné, diront les détracteurs. Jésus veut faire rentrer en conscience ou dans la conscience ceux qui jugent sans savoir à l'arbitraire. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose de désolant, même au milieu de nous, où il y a des frères et des sœurs, où il y a peut-être même des autorités qui quelque part, et il faut le reconnaître, eh bien, sans savoir les choses, sans connaître l'histoire, sans connaître finalement eh bien, le pourquoi du comment. Pourquoi les choses se sont passées? Comment elles se sont passées? Quelles sont ces raisons vraies ou fausses? Finalement, de faire une enquête. Oui, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Qui juge sans savoir et qui juge à l'arbitraire et qui condamne sans miséricorde. La moralité de notre message. Ça va, vous n'avez pas faim? Tout redresseur de tort. Tout redresseur de tort trouvera des raisons de garder le silence, de s'humilier et peut-être de changer pour verser dans plus de modération. Ça, c'est le travail des chrétiens parce qu'ils savent. Les autres peut-être, qui sont inconvertis, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile, on peut comprendre. Mais nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité autre que finalement nous avons voulu eh bien, aller jusqu'au bout pour avoir finalement eh bien, une certaine justice. Eh bien, c'est de s'humilier, de dire « Oui Seigneur, j'ai jugé à tort. » Ça m'est arrivé moi en tant que pasteur, de juger quelquefois et de dire « Mais oui, je me suis gouré complètement. » Et à un moment donné, Dieu nous a fait grâce. Parce que pour dans une fonction pastorale, nous sommes tellement confrontés avec tellement de choses que quelquefois nous mettons les pieds à côté. Et à un moment donné, et quelquefois il y a des choses qui sont formidables parce qu'on l'a vu, quelquefois 10 ans, 20 ans, 30 ans, moi je peux parler de 50 ans maintenant, hein, où les gens reviennent, et bien les choses sont réparées à ce moment-là. C'est beau, hein? C'est beau, parce qu'il y a eu un travail. Tout à l'heure, Jean nous a dit que c'est vrai, il y a des choses où nous ne sommes pas intéressés, mais avec le temps, on est transformés. Amen. Eh bien, c'est ça, Seigneur. Il transforme, il nous laisse le temps, naturellement. Je pense que ne nous faisons pas d'illusions, ne pensons pas que nous sommes les meilleurs, que nous avons la raison nous-mêmes, que nous avons finalement, eh bien là, que nous sommes, eh bien des juges, parce que nous connaissons Jésus, parce que nous connaissons sa parole. Attention, parce qu'on peut se servir de sa parole comme eux là. C'est renards, ce qu'ils appellent des renards. Hein. Bon, voilà, tout simplement. Jésus nous laisse une dernière pensée. Regardez-moi. Ben, vous faites que ça. Ne me regardez plus. Doigt dans l'œil? Non. La paille et la poutre. Attention, hein. Ça fait mal, hein. Même une toute petite poussière dans l'œil. Mais vous avez jamais essayé une poutre? Eh oui, Jésus dira, en effet, tu enlèves la paille dans l'œil de ton voisin, mais toi, tu n'as pas vu que tu avais une poutre. Dis donc, Jésus, c'est une sagesse divine. Je dois le dire, une sagesse divine. Alors, il y a une heureuse conclusion. Je voudrais vous la laisser. Jésus dira à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Oui. Amen, oui. Je ne te condamne pas non plus. Si quelqu'un pouvait pardonner, c'était bien lui, parce qu'il avait payé le prix. Ou il allait payer le prix à la croix du calvaire. Ah oui. Je ne te condamne plus. Et nous avons là la démonstration d'une puissance, d'un pouvoir de conscience qui est affranchi. Vous savez, on vivra dans le ciel. Il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus le péché. On n'en parlera même plus, on saura même plus ce que c'est. Et non, parce que tout ça sort dans un nouveau monde, comme le monde dans lequel on vit, on est rentré dedans. Hein. Et on a épousé finalement eh bien, cette mentalité, et on ne sait pas comment faire autrement. On ne sait pas comment faire autrement. Et il dira à la fin, va et ne pêche plus. Donc il reconnaît qu'il y a quand même une petite... quelque chose. Mais à tout péché, miséricorde. Et ça, c'est important. Va et ne pêche plus. Et ça, ça force la clémence et l'amour. Et à ce moment-là, quand vous avez été pardonné au point que cette femme a été pardonnée, comme nous les uns et les autres, si nous demandons pardon et que nous sommes pardonnés, même le plus petit ou le plus grand de tous les péchés, eh bien, ça nous donne de venir à Jésus et de l'aimer. Parce que c'est le but, hein. De l'aimer. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ça. Moi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Pas trop. J'en ai fait quand même. Ah oui, j'ai vu la détresse de certaines situations qui sont terribles. Oui, oui. C'est quelque chose, c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé au salut. Hein. J'avais 19 ans à l'époque. Ça se passait dans une ville qui était un peu Sodome et Gomorre, c'était Amsterdam. On a vu des choses. Mais pourtant, le Seigneur m'a gardé. Parce qu'il avait un projet pour moi. Il avait un projet pour nous, devenir ses serviteurs pour annoncer l'Évangile. Ouais, c'est formidable. Alors, ça fait 54 ans maintenant. Oui, 54 ans, hein, je pense. Oui, oui, c'est ça. Vous savez combien de temps qu'on est mariés, c'est pas avant-hier, non? Eh oui, c'est comme ça. Accusés en conscience, ils se retirèrent. L'aveuglement recule devant la vérité révélée et l'injustice flagrante. La femme au verdict mortel reste près de Jésus, car Jésus, tout simplement, là, en effet, tout simplement, va donner son pardon. Elle éprouve une sorte de réveil, en quelque sorte, réveil de conscience. Et nous voyons que cela va développer un sentiment de mort et d'horreur du péché. Quelqu'un qui se convertit n'a plus envie de pécher. Il pourra être tenté, il sera quelquefois jusqu'à l'extrême. La tentation du diable sera peut-être extrêmement difficile, mais il dira toujours au dernier moment, « Seigneur, délivre-moi de ma tentation, délivre-moi de ce qui m'entraîne finalement eh bien, à la mort. » Et il va en avoir l'horreur. Un chrétien a horreur du mal. N'est-ce pas? C'est tout simple comme ça. Et ça nous pousse à changer de vie, tout simplement, comme elle est déjà sur le chemin. C'est ce que l'on aspecte, ce qu'on appelle la tristesse de la repentance. Une sorte, finalement, d'attristement, de tristesse profonde qui ne vient pas des hommes et de la culpabilité des hommes ou de ma propre culpabilité, mais une culpabilité qui vient de Dieu. Attristée par le Saint-Esprit. C'est le texte, hein. Au moins qu'il l'a inventé, hein. Ça c'est sûr. C'est la façon divine de faire, eh bien, d'un pécheur, un homme qui aime Dieu, qui aime les autres. Aïe, c'est pas Caïn et finalement son frère, hein, tout simplement. Ça nous donne la haine du mal, tout simplement, de se sentir aimé, parce que nous ne sommes plus condamnés dans le ciel. Nous ne sommes plus condamnés, nous pouvons être pardonnés aussi des uns et des autres que nous avons. Et non rejeté, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc, c'est la sainteté de Jésus et de sa parole que nous lisons, que nous croyons, que nous acceptons. Ainsi Jésus de lui répondre aussitôt, « Je ne te condamne plus, je ne te condamne pas, mais ne pléche plus. » Mes frères et sœurs, ne cachez rien au Seigneur. On n'est pas obligé de raconter notre histoire, finalement, aux hommes, parce que là, vous risquez d'être jugés, hein. Hein, ils ne vont pas comprendre, parce qu'ils ne connaissent pas votre histoire, ils ne connaissent pas votre passé, ils ne connaissent rien de votre histoire. Mais en tous les cas, vous pouvez vous approcher devant le Seigneur, dans votre chambre, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te pardonne, et il faut croire que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dieu pardonne. Merci Seigneur pour cette parole. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Le monde est ainsi, et nous n'avons pas à juger le monde, puisque nous sommes dans le monde et que nous avons aussi tripoté tant de choses. Alors, nous avons véritablement eu cette grâce immense, cette grâce que nous ne pouvons pas comprendre encore maintenant, qu'en effet, eh bien, Seigneur Jésus est mort pour moi, il est mort pour nous, et nous voulons véritablement, Seigneur, eh bien, te demander que tu touche le monde par le message de l'Évangile. Parlez de Jésus, annoncez Jésus, donnez sa parole qui crée la foi dans les cœurs et qui crée la transformation des vies. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Mais moi, je veux te prier particulièrement, et nous te prions ensemble, pour nos frères et nos sœurs qui ont été malmenés, pour nos sœurs qui ont été injustement, en effet, eh bien jugées, qui quelque part, Père éternel, pleurent encore. Et Seigneur, notre prière aujourd'hui, alors qu'ils souffrent, alors que véritablement ils gênent, ils sont languissants, ils sont peut-être désorientés, mais Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que tu es près d'eux, tu es avec eux, tu es en eux, Seigneur. Et nous voulons te demander, Seigneur, qu'en effet tu les guérisses de ces blessures. Parce que nous croyons, Père éternel, que ce genre de phénomène du mal, ce sont des cicatrices de la déception. Ouais, cicatrices de la déception, de la trahison peut-être. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, visite-les dans les églises, visite-les au milieu de ton peuple, et nous te bénissons et nous te rendons grâce, et répare leurs pensées, répare leur esprit, répare leur âme et leur cœur endolori. Merci Jésus. Merci parce que tu es vivant et c'est toi qui peux nous sortir de ce carcan. Nous te louons et nous te bénissons. Merci pour ta parole. Amen.